Je voudrais simplement remarquer une image dans cette guerre, une image qui a été montrée, qui a été souvent montrée ces derniers jours par les différentes télévisions. Une image sur laquelle on voit une foule, une centaine de personnes, milliers de personnes, peut-être 2000, 3000 personnes immobiles, enracinées devant la porte de la mosquée de Najaf, au moins que ce ne soit la Syrie. Et face à cette foule, 6, 7 soldats américains, le point de vue de la caméra est du côté des soldats, ces soldats qui reculent devant la foule, sans doute pas par peur. La charge symbolique de cette image est très très forte. Il y a là ces milliers de personnes immobiles qui représentent tout ce passé, tout cet héritage, ce poids que représente la civilisation qui est là-bas. Et devant eux, des petits jeunes de 21 ans, 22 ans, nombre de 6, 7, le nombre des emmenés de l'Amérique peut-être, et qui reculent parce que tout cela les dépasse, et parce que là on ne joue plus. Il ne s'agit plus de la guerre, il s'agit de quelque chose de sérieux que les Américains n'ont pas compris. Cette culture qui est présente, qui est infiniment plus forte que n'importe quelle armée, que n'importe quelle guerre. Merci, au revoir, à bientôt.
Ben salut. Georges Le Boucher, finalement, a bien eu son dimanche en avance pour faire sa guéguerre. 81 milliards, ce qu'on oublie de nous préciser exactement, enfin, c'est l'ordre de grandeur. Et l'ordre de grandeur, bah, le voici, c'est à peu près un quart des revenus fiscaux de la France. C'est 19 années de RMI pour 1 million de personnes. C'est 441 années de salaire pour 1000 personnes à 10 000 balles. C'est aussi 20 porte-avions. Et c'est aussi 1 million d'années de bouffe pour les époux Chirac à la mairie de Paris. Voilà, salut.
Bonjour, je m'appelle Patricia, je suis institut, je travaille près du Mans. Je fais partie des cadres moyens, j'ai fait des études moyennes, j'ai une intelligence moyenne. Je suis parfois moyenne avec les mômes, mais je les aime et j'aime bien mon boulot. J'ai du temps pour moi, de l'argent. Je suis moyenne, mais j'ai une belle vie. Je suis moyenne, mais depuis quelques temps, il y a des choses autour de moi qui me rendent chaotique. Je suis moyenne, mais on n'a pas besoin de me prendre pour une conne, de m'expliquer la nécessité de détruire les services publics, la nécessité de la bourse, l'inutilité de l'impôt sur les grandes fortunes, la tristesse des chefs d'entreprise qui licencient, l'importance de ne penser qu'à soi, etc. Vendredi 4 avril, j'étais en grève, on était 800 assablés chez Fillon, avoir l'impression de se bouger, pas pour récupérer des privilèges, non, mais pour dire qu'on n'est pas dupe et qu'on veut autre chose. On a raffariné les murs de la mairie, on a lancé des paquets de farine avec le sourire. Le maire a porté plainte. Bel exemple politique, non ?
Oui, d'abord, bonsoir à tous et puis très bonne émission ce soir 14 avec José Bové sur Jacques Ellul. Une petite réaction concernant la guerre. Jack Straw, le ministre anglais des Affaires étrangères, a déclaré cet après-midi que la Syrie n'était pas la prochaine sur la liste. Donc je conseille à tous les Syriens de se préparer, d'acheter à bouffer, à boire, parce qu'à chaque fois que Jack Straw a dit quelque chose dans le courant de cette guerre contre l'Irak, il a été démenti par les faits menés par les Américains dans les heures qu'on suivit. Donc, amis syriens, population syrienne, à vos pattes. Au revoir.
Eh oui, des messages sur les répondeurs de la basse issue 01 56 40 37 37. Le coût de cette guerre a été extraordinaire. Vous avez vu le coût des avions furtifs. 2 milliards 200 millions de dollars la pièce. C'est vrai que c'est tout à fait obscène. Et ça, il faut pas croire que nous sommes les seuls à nous en indigner. Évidemment que les citoyens américains ne manquent pas de se poser des questions. Eux qui sont en train de traverser une crise économique et sociale dont nous parlerons à partir de vendredi dans la basse, si j'y suis, un carnet de route sur la route de Bagdad dans une Amérique en guerre, Bagdad, Florida, à partir de vendredi prochain. Aujourd'hui, Connaissez-vous la discodromplasie placidolier? Ça vous dit quelque chose? Eh ben, Brigitte va vous en parler. C'est une rencontre tout à fait extraordinaire entre une, entre cette femme et nous, et vous, et une femme que, Claire Auther a écouté. On va dire, voilà. Écoutez. D'ici là, d'autres messages, sur le répondeur de la basse que vous nous avez adressé. Mais d'abord, celui de Bob le Vétéran. Bob le Vétéran, c'est notre héros de la balade qui commencera vendredi.
Hey Bush, what do you say? How many kids did you kill today? Hey Bush, what do you say? How many kids did you kill today?
Qu'est-ce qu'un normopathe? C'est un individu obsédé par le normal. Un individu soumis et obéissant, qui confond la norme avec la loi, qui confond la toute-puissance du père et du groupe avec la loi démocratique, et qui, pour mieux se persuader qu'il est normal, passe son temps à vouloir normaliser le monde. Ce ne sont pas les psychopathes qui produisent les dictateurs, ce sont les normopathes. César, Napoléon, Hitler, Staline, George W., Saddam Hussein, tous ces personnages sont des normopathes qui haïssent toute altérité. Car l'altérité perturbe la norme. Les dictateurs ne sont pas des sauvages primitifs. Ce sont toujours des gens ultra-civilisés et souffrant de normopathie.
Je voulais signaler le passage du film Rêve d'usine dont tu as déjà parlé. Ce mardi 15 avril à Aix-en-Provence au cinéma Le Mazarin à 20h30, ce film sera suivi d'un débat animé par des membres d'Attaque Pays d'Aix. À bientôt, c'était Simone.
Un oppresseur vient de tomber. Pendant qu'ils sont dans la région, les Américains feraient bien de libérer un autre peuple opprimé depuis 50 ans, qui a lui aussi son lot de morts, de blessés, de femmes et d'enfants massacrés. Je veux parler de la Palestine, où les hommes sont considérés comme des sous-hommes par leur oppresseur. Je n'ai pas le droit de prononcer le nom de cet oppresseur. Je vous mets quand même sur la voie. C'est le meilleur ami des Américains. Au revoir.
Salut, c'est Daniel Mermet avec Claire Auther. Là-bas, si j'y suis, Brigitte.
Flight number 2, arriving from New York.
Un éléphant qui se balançait sur une toile d'araignée. Et puis après, je sais plus comment on enchaînait. Et si c'était d'être normal, qu'il soit monstrueux, et que nous soyons tous des monstres? Et si c'était d'être normal, qu'il soit monstrueux?
Je suis toute seule. J'ai 13 ans, et les vers de terre recouvrent tout, même les fenêtres. Je les sens qui grouillent sur mes jambes partout. Ils vont me remplir la bouche et me boucher les yeux. Comme ça, ça fera comme de la nuit. À Singapour, il suffit de respirer pour être heureux. On va partir là-bas, Ukli, tu verras. Où l'on jouera du piano et tu feras danser le petit rat. Pleure pas, petit frère. Oh mon Dieu, mon Dieu, mon Dieu, mon Dieu, oh mon Dieu, elle dit maman. Je l'entends qui n'arrête pas de répéter ça jour et nuit.
Ugly, ugly. C'est comme ça qu'on s'est connus, des histoires que j'écrivais pour l'après-midi des transistors avec Adèle qui faisait la petite sœur de Glee, petite sœur malheureuse d'être normale et jolie, alors que son frère, le monstre Ugly, il y en avait que pour lui, c'était il y a des années. Et c'est comme ça qu'on a fait connaissance avec Brigitte. Et si c'était d'être normal, qui soit monstrueux. La beauté, c'est comme la raison. La raison n'est qu'une folie qui a réussi, et la beauté aussi, la beauté, après tout, n'est qu'une laideur qui a eu de la chance. Vivre, je vais vous dire ce que c'est vivre. C'est se heurter au malheur, c'est se confronter au mal. Le photographe Raymond Depardon a intitulé l'un de ses films « Comment ça va avec la douleur ?» C'est les Africains qui lui disaient ça dans une Afrique qu'il aime, le voyant aller photographier des horreurs, des malheurs, des douleurs, lui disait « Alors, comment ça va avec la douleur ?» La réponse, c'est que douleur, malheur, détresse, ça n'a aucun sens. Ça n'a que le sens qu'on veut bien donner, lui donner, inventer un sens au mal, au malheur, à la détresse, à la douleur. Il y a des raisons, souvent, à cela. Et il faut les chercher, il faut les démasquer, il faut les dévoiler pour tenter d'agir dessus. Mais... ça n'a pas de sens, ça n'a pas de sens. Prenez les grandes catastrophes, les grands génocides, ceux qui les ont subis, ceux qui en sont rescapés. Qu'en ont-ils fait ? Que font les victimes ? Que font les héritiers des victimes ? Les uns vont exploiter ce malheur de la pire des façons. Je pense à l'exploitation qui a été faite de la catastrophe du 11 septembre 2001, par exemple. On a rencontré, on rencontrera la semaine prochaine à New York, des familles de victimes qui refusent qu'on exploite cette détresse, ce malheur, cette douleur pour opprimer le peuple irakien. D'autres, au contraire, vont exploiter cette catastrophe pour exciter le pire des patriotismes. Brigitte répond à cela, répond à ces questions. Et c'est pas parce qu'elle est une femme un peu à part, vous allez voir, elle dit je suis marquée, vous allez voir de quoi. On va la laisser parler à Claire Auteuil. Mais vous allez voir à quel point elle nous ressemble, à quel point nous ressemblons à Brigitte, et à quel point elle nous renvoie à ce que Hannah Arendt appelait notre détresse fondamentale.
Et si c'était d'être normal, qu'il soit monstrueux et que nous soyons tous des monstres? Et si c'était d'être normal, qu'il soit monstrueux?
Belle abandonnée au désert bouillant, tu m'as fait pleurer quand j'étais enfant. Vert pâle adoré, vieux rose béni, ocre doux aimé, cramoisi chéri. C'est l'après-midi, encore en été, et l'on se relie. Les yeux dilatés, grand jardin sauvage rempli de frissons pour les anciens pages et les Robinsons. Ah, comme on courait au milieu des buis. Ah, comme on aimait les goûters de fruits.
Dyschondroplasie d'Ollier. Ça s'appelle dyschondroplasie d'Ollier. Je crois qu'il y a des services encore à Paris qui s'appellent service Ollier. C'était un chirurgien qui avait identifié cette maladie. On n'en connaît pas vraiment les causes. Et le nombre de personnes atteintes par cette maladie est dérisoire. Il n'y a pas, beaucoup de gens qui ont ces problèmes.
Ça fait toi une personne singulière.
Singulière, oui, ça, oui, au sens singulier, oui. C'est qu'à l'âge de 4 ans qu'on a pu mettre un nom sur cette maladie, parce que sinon on disait « oh, rachitisme » ou alors « c'est même, elle fera des fractures même couchées, marche complètement interdite ». Et ce médecin, lui, a tout de suite vu de quoi il s'agissait. Pour avoir une idée peut-être de ce à quoi je peux ressembler, c'est de parler de Toulouse-Lautrec qui, lui, avait une maladie cousine de la mienne, c'est-à-dire des malformations osseuses. Moi, ça me fait plutôt plaisir d'appartenir à cette famille. C'est une bonne référence. Je m'appelle Brigitte Brigante. Brigante en sicilien sont des gentils brigands. C'était plutôt, si on veut traduire en français, c'est plutôt Brigitte Robin des Bois. C'était des brigands qui prenaient aux riches pour donner aux pauvres. Donc c'est ce qui me plaît bien dans ce nom. J'aime bien les noms qui racontent des histoires. Voilà pour le nom. Là, je suis née dans 51, en fin d'été. Ma mère, instite, communiste. On habitait à Saint-Étienne-du-Rouvray, qui est resté un des bastions du communisme qu'elle avait hérité de son père, mon grand-père, un cheminot très engagé aussi politiquement. Ma grand-mère, elle avait le linge sale des autres. C'est ce qu'elle faisait, ça allait de pair aussi avec d'autres activités. Elle s'occupait des toilettes des morts. Mon père est un penseur, penseur avec un A, parce que c'était une de ses spécialités, une spécialité à l'époque quand on était infirmier. Il n'avait qu'été plus doué pour faire des piqûres, d'autres pour faire avaler des médicaments. Lui, c'était pour faire des pansements. Il avait l'art du croisement des bandes, du bandage. Et donc, quand il fallait me trimballer avec mes plâtres ou mes appareillages, ben, j'ai eu un père porteur qui me portait, qui me trimballait quand on était en ville. Et malgré tout, ma mère se minait de l'intérieur, des culpabilités. Mon premier souvenir de petite fille, c'est la naissance de ma petite sœur. Je l'appelle encore ma petite sœur, même maintenant. J'avais 5 ans et demi. Je l'ai attendue avec beaucoup d'inquiétude. Et quand elle est née, un infirmier de passage avait dit à ma mère, vous inquiétez pas, votre petite fille, elle a des jambes superbes, on en fera une danseuse. J'avais été rassurée. Parce que bon, j'avais peur qu'elle ait le même marquage que moi, ce marquage, les jambes abîmées, et un marquage physique, et je savais qu'elle y échappait. Donc ça a été un très beau souvenir. Quand je surprends mon image dans un miroir ou dans une vitrine de magasin, je me dis, tiens, qui c'est une drôle de personne, qui c'est? Et mes neveux, longtemps, m'appelaient Clochette. Dû à ma petite taille, je mesure 1m43. Et c'est ce qui surprend le plus les enfants, d'ailleurs. Quand ils croisent dans la rue avec leur maman, la tire par le bras. Oh, maman, regarde la petite maman. C'est pas horrible, la difformité de mes jambes. Mais bon, j'ai des jambes courtes et un peu abîmées, un peu arquées. Ça, c'est pas ce qui... je pense que c'est plutôt ma taille qui surprend. J'ai une maladie qui est congénitale. Ce sont les cellules osseuses qui déjantent, qui, au lieu de faire de l'os, reste au niveau du cartilage, donc des malformations osseuses, des membres inférieurs. Ça a fait que bon, moi j'ai une vie un petit peu marginale dès ma plus jeune enfance, parce que bon, moi j'ai pas toujours pu être scolarisée. Je me distinguais, le fait d'être marquée me démarquais de mes copines d'école. Et ça, c'est... Je crois que je le garde même maintenant, mais j'aime bien me démarquer. Je cherche pas à rentrer dans le moule. Le fait de pas être ordinaire, je crois que c'est aussi c'est quelque chose d'intéressant. Il y a quand même beaucoup d'avantages secondaires apportés par le fait de ne pas être ordinaire. Par exemple, ben bon, moi j'ai essayé de rentrer dans des institutions. Instit remplaçante, catapultée dans une banlieue, classe de perfectionnement.
ça a duré un an. À la fin de l'année, le médecin du travail m'a dit, bon, ben, faut mieux plier bagages, vous serez jamais titularisée. Et je m'étais dit, mais je vais rentrer par une autre porte, les enfants, je les aurai différemment. Et j'ai fait toutes, pratiquement toutes, je pense, les bibliothèques pour enfants de France. Et j'ai trouvé un poste, j'étais bibliothécaire pour enfants. Et là, ça a été un bonheur total pendant 2 ans. Je me suis jamais sentie adulte, comme je disais, vraiment. J'aime les livres pour enfants, les contes pour enfants. Je suis restée aussi un petit peu dans ce monde-là, puis j'ai pas envie, franchement, de le lâcher.
Un éléphant qui se balançait sur une étoile, étoile, étoile. Toile d'araignée, c'était un jeu tellement, tellement amusant que tout d'un coup, boum! Alors, je m'appelle Shirazad. Brigitte, c'est ma copine. Je la connais depuis très très longtemps. Elle n'arrête pas de grandir, de grandir. Ça cause qu'elle est rentrée dans un trou et après elle est devenue petite et elle rentre dans une bouteille tellement elle est devenue petite. Voilà. Elle est finie. Elle finit ma chanson.
T'as des photos de toi, petit ?
De petite. Alors, ça c'est... Voilà, alors là, je suis aidée.
À m'asseoir sur un banc, 5 minutes avec toi, et regarder les gens tant qu'il y en a. Te parler du bon temps qui est mort ou qui reviendra, en serrant dans ma main tes petits doigts. Puis donner à bouffer à des pigeons idiots, leur filer des coups de pied pour de faux. Et entendre ton rire qui lézarde les murs, qui sait surtout guérir mes blessures. Te raconter un peu comment j'étais minot et bon mec fabuleux. Compliqué chez le marchand, car en sac et minto, caramel à 1 franc. Et les Mistral gagnants. À marcher sous la pluie, 5 minutes avec toi, et regarder la vie tant qu'il y en a. Te raconter la terre en te bouffant des yeux, te parler de ta mère un petit peu. Et sauter dans les flaques pour la faire râler, bousiller nos godasses et se marrer. Et entendre ton rire comme on entend la mer s'arrêter et partir en arrière. Te raconter surtout les carambars d'antan et les cocos bohères. Et les frères au doudou qui nous coupaient les lèvres et nous niquaient les dents. Et les Mistral gagnants.
À une époque, j'ai cohabité presque avec des malades mentaux. Mon père avait un logement de fonction dans un hôpital psychiatrique. C'est un hôpital ouvert, donc les portes étaient ouvertes. Il arrivait que des malades passent par la maison, mais on n'avait pas peur, on n'avait pas de... C'est des regards de personnes qui m'ont jamais dérangé. Parce que c'était un regard franc, c'était pas détourné, c'était simple. Je me suis jamais sentie mal à l'aise avec des malades mentaux. J'étais de leur monde d'une certaine façon. Et ça me fait très plaisir. ça me fait très plaisir.
Je suis sortie de l'ordinaire en claquant la porte. C'est ce que disait l'éditeur Eric Losfeld, le terrain vague. Ce type s'imaginait qu'il était sorti de ce terrain vague en claquant la porte de l'ordinaire. Sortir de l'ordinaire, on devrait tous en rêver. Ça devrait être ça, le sens de la vie, l'insoumission. Eh bien, il y en a qui sont tombés dedans étant petits, naturellement, on pourrait dire. C'est en tout cas ce que Brigitte Brigante fort de sa vie, donne comme sens à sa vie. Elle a une maladie, discodromplasie d'Ollier, elle mesure 1m43, une maladie rare. Une maladie, dit-elle, qui fait d'elle une personne singulière, une personne, elle emploie le mot distinguée. Et de ce qui est évidemment pour tous un handicap, un malheur, une offense, non. Elle essaye de retourner cette chose-là pour, et vous le comprenez, vous le sentez, on le voit tous, pour au contraire aller aux limites, aller plus loin que les limites des ordinaires, de ceux qui n'ont pas claqué la porte de l'ordinaire, et pour nous rapporter d'autres sensations, elle va au-delà de nos limites. Et elle devient indispensable. Et c'est le cas des poètes, et c'est le cas des enfants, et c'est le cas des griots, et c'est le cas des saints, et des artistes, et de tous ceux qui n'acceptent pas les choses telles qu'elles sont, mais telles qu'elles pourraient être. De ce qui lui a été imposé, Brigitte fait une invention.
T'as des photos de toi, petite ?
De petite ? Alors, ça, c'est... Voilà, alors là, je suis bébé. J'avais le visage déformé aussi. J'avais ce qu'on appelle un angiome plan. C'est une tumeur sur la lèvre supérieure qui déformait le visage. Regarde, mais je suis pas à l'aise.
Tu as qu'une jambe là qui est appareillée.
Oui, c'est la jambe droite qui c'est celle qui a le plus morflé là, où il y a le plus d'opérations de greffes. J'ai eu besoin d'appareillage cuir et métal. Sinon, il y a eu les opérations orthopédiques pour essayer de rattraper des centimètres, de remettre les jambes droites. On cassait l'os et puis on les ressoudait à l'horizontale. Alors là, mon premier contact avec la maternelle, c'est mon contact avec les filles, c'était pas génial, ça, parce qu'elles venaient voir mes chaussures, et tes chaussures, pourquoi elles sont comme ça, pourquoi il y a une semelle qui, pourquoi, moi ça m'embêtait un petit peu. Avec les filles, c'était malgré tout, il fallait que j'arrive à ce que les autres filles m'envient, d'une certaine façon. Je me laissais pas mettre à l'écart. De la souffrance, étant enfant, j'en ai aucun souvenir. C'est pas, ça m'a absolument pas traumatique. Pourtant, c'était le masque qu'on collait sur la figure où on pouvait avoir l'impression de disparaître. Mais là aussi, il y avait une préparation. Il y avait toute une parole avant de faire un acte qui allait être douloureux. Quand on retirait des broches, bon, ça, on a mal une minute, pas plus. Après des anesthésies, je délirais. J'en garde plutôt un bon souvenir de ces délires qu'on avait après des anesthésies parce que c'était aussi très costaud. C'était des délires pendant plusieurs jours, même des fois 2 jours, voire 3 jours. Il y avait un porte-manteau qui m'avait beaucoup, beaucoup troublé. Un porte-manteau, je crois que ça s'appelle des perroquets, et des porte-manteaux qu'on trouve encore parfois dans des brasseries. Et pour moi, c'était une Anglaise qui s'était installée dans ma chambre. J'avais de longs discours avec elle. Et ça avait un côté un petit peu magique, féerique. Bon, ça aussi, ça fait partie des bons souvenirs, mais en revanche, parlant de la douleur, maintenant adulte, en âge plutôt avancé, la douleur, là, oui, je peux en parler. Il y a certaines douleurs que je subis comme une agression. Quand on enlève un orteil, un doigt, par exemple, quand ils prennent trop de volume ou qu'ils deviennent trop douloureux, eh bien, on les enlève. On perd un orteil, bon, c'est pas... Ça touche pas les motifs, mais alors la main, c'est perdre un doigt, c'est quelque chose de... J'ai beaucoup cauchemardé après qu'on m'ait enlevé ce doigt. C'est vraiment perdre une partie intime de soi, même un petit doigt. Et des fois, ça fait longtemps que je n'ai plus ce petit doigt, mais j'agis encore comme s'il était là. Je fais des gestes, me gratter l'oreille, j'amorce le geste pour aller dans l'oreille. Ah, mais puis petit doigt. On en a enlevé des morceaux dès l'âge de 15 ans. Oui, j'étais en seconde. On a essayé de le bricoler, de lui donner une forme plus acceptable, et puis on l'a enlevé en 2 temps. Ça fait partie des syndromes de cette maladie. Parfois, un os se met à souffler, à devenir comme un chou-fleur, à gonfler comme un chou-fleur. C'est extrêmement douloureux. Donc là, On a décidé de supprimer, de même qu'on a enlevé un orteil pour la même raison, parce que ça posait des problèmes de chaussures. Il y a un orteil du pied droit qui est en mauvaise condition, mais je voudrais pas m'en séparer, parce que paraît-il, avec trois orteils, là, l'équilibre est drôlement compromis. Ça poserait beaucoup plus de problèmes. Il y a des regards qui m'ont construit. Le regard du chirurgien m'a construit, vraiment m'a aidé à mettre pied sur terre. J'ai appris à marcher, à prendre contact avec le sol, et tous les matins quand je me lève, c'est un bonheur. L'idée de mettre pied sur terre, c'est...
À quel âge est-ce que t'as mis pour la première fois pied à terre?
Réellement, où j'ai pu marcher, je devais avoir 5 ans et demi. Je l'ai rencontré à l'âge de 4 ans. Il m'a ouvert plein de portes. Quand il avait à m'opérer, ben, plusieurs fois, il m'a opéré dans une clinique, l'Oasis, sur la côte, dans le Var, pour que je puisse avoir vue sur la mer. Je devais avoir 9 ans et j'étais dans des plâtres qui pouvait s'ouvrir. C'était comme un petit peu un sarcophage. Donc, il me sortait de mon sarcophage. Et nuitamment, il m'emmenait sur la plage et dans l'eau. C'était mon chevalier blanc. J'ai pas osé, mais j'étais proche de lui demander en mariage, de lui dire qu'il s'engage dans une promesse de mariage. Et entre la radio, les plâtres, la consultation, de nouveau une radio, et m'emmenait voir les tableaux qu'il avait, des Lautrec, des Degas. Mais il y en avait même dans les salles de consultation. Et enfant, ça m'éblouissait. Je voyage pas mal dans des bus et ça étonne parfois, ça déclenche une curiosité, mais surtout de la part de femmes. Et là, ce qui me dérange, c'est souvent le regard des femmes. Mais le regard des femmes, c'est déjà c'est une évaluation. On est coté, c'était plutôt un regard de maquignon. On juge, on soupèse, on estime, et des fois c'est pas flatteur du tout.
Ça c'est une chose que t'as ressentie toujours.
Oui, et que j'ai ressenti très tôt, même dès que j'ai fait mes premiers pas, parce que c'était souvent, faut le dire encore, des femmes qui venaient quand j'étais enfant et que j'étais avec ma mère, qui venaient vers nous, puis par curiosité, bon, saine ou pas très saine, bon, venaient, qu'est-ce qu'elle a eu, qu'est-ce qui est arrivé, votre petite fille, pourquoi? Et là, ma mère était furaxe, elle rentrait dans des rages, occupez-vous de ce qui vous regarde. Et puis moi, après, j'avais aussi les retours. Enfin, si tu marchais mieux, si tu marchais droit, on ferait pas ce genre de réflexion, puis... Ça la traumatisait, ça lui faisait un mal terrible, le regard des autres. Alors après, j'avais élaboré une tactique de défense. C'est-à-dire, quand je marchais côte à côte avec ma mère, je voyais des personnes approcher, je les fixais droit dans les yeux, pour surtout qu'ils ne baissent pas les yeux vers moi. Je captais leur regard pour le détourner, pour ne pas blesser ma mère. C'était ça, moi je m'en fichais à la limite. Ça m'était, moi j'aurais pu leur répondre... J'étais assez insolente, ça ne m'aurait pas dérangée. Mais ça me faisait tellement mal aussi de voir la souffrance de ma mère quand on l'abordait. Alors une autre tactique aussi, c'était carrément de me planquer. Je me cachais derrière mon père ou ma mère. Et ma mère, je crois qu'elle a jamais... Elle s'en avait jamais aperçue de cette tactique. Et mon père, en revanche, souvent, il me disait, mais viens avec nous, viens à côté de nous, te cache pas. Il avait compris pourquoi je me cachais. Elle avait honte d'avoir un enfant comme moi. Oui.
Bijou, te réveille pas surtout. Je vais pas faire de bruit, juste un café, c'est tout. ne plus rester ici, je dormirai, je sais pas où. Oh, oh. Bijoux, bijoux, le temps ça pourrit tout. Les cheveux dans le lavabo, les mégots écrasés n'importe où. L'armée du salut qui joue. À ma montre, y'a pas de chaîne. À mes cols de chemise, pas de baleine. Oh, oh, oh. Pense à tes rendez-vous. Rappeler le gynéco, passer à la banque, prendre des sous. Trouver quelqu'un d'autre, moi je mets les bouts. Oh, oh.
C'est tous ces petits gris-gris. Parce que là, sur ton mur, tu t'as accroché toutes sortes de petites babioles. Je crois un peu à la magie. L'Afrique m'intrigue sur ce sujet. Le regard des Africains m'avait beaucoup soulagée. Ça avait été j'avais fait un voyage en Afrique, au Kenya, avec un de mes neveux. Et jamais je me suis sentie aussi bien, aussi libérée qu'en Afrique, parce qu'il y avait plus le regard. J'étais plus jugée, j'étais plus regardée. Enfin, ou alors j'étais regardée différemment. Au Kenya, on était un groupe d'Européennes, et l'Africain avait dit aux Européennes « Bon, je vous appelle toutes Big Mama ». Puis il se retourne et dit « Non, vous, en me désignant, vous, je vous appelle Little Bibi ». Et en rentrant en France, en feuilletant un dictionnaire, en regardant dans un dictionnaire de Swahili, ça voulait dire jeune fille. J'ai trouvé ça plutôt aimable, gentil. C'était inespéré même d'être appelée jeune fille à 40 ans passés. Voilà le rapport avec l'Afrique. Et après, le retour en France, ça a été vraiment très difficile. Là, c'était le poids de toujours de ce fameux regard que j'avais oublié en Afrique, donc je m'étais débarrassée. En Afrique, quand quelqu'un a une difformité, un marquage physique, ça montre qu'il a pris en charge un problème familial ou de la communauté. Donc, il est plutôt bien vu parce que c'est lui qui les décharge. C'est quelqu'un qui prend en charge des problèmes. Il m'est arrivé aussi souvent d'avoir été détaillé comme ça par des Africains, même des très jeunes Africains. J'étais à un arrêt de bus et il y avait un jeune homme, une vingtaine d'années, il me regardait, me détaillait, la tête aux pieds, puis s'est approché de moi, et il m'a demandé, il me dit, vous connaissez un peu l'Afrique? Je lui dis, non, pas vraiment. Et il me dit, vous savez, en Afrique, il y a une ethnie qui s'appelle les Pygmées. Il aurait été en groupe avec une bande de copains, je me serais dit, bon, ils sont en train de me charrier, avec mon 1m43. Mais non, c'était pas ça. Il me dit, mais vous dégagez la même chose que les femmes pygmées que j'ai pu rencontrer en Afrique. Elles dégagent une certaine énergie, elles sont différentes des autres. Et il me dit, vous êtes comme elles. C'était assez étonnant.
a dit pardon pour la poussière. Vous avez entendu tout à l'heure Brigitte Brigante, elle a dit ça. Pardon pour la poussière. Et pardon pour la poussière, c'est la phrase qu'elle souhaiterait voir figurer sur sa tombe. Pardon pour la poussière. Et oui, elle n'est que poussière. Elle le sait, et nous tous. Nous le savons, mais nous l'ignorons. Nous feignons de l'ignorer. Nous feignons de l'oublier, bien sûr. Tout tourne autour de ça, de la poussière. Et tout tourne autour de du normal. On s'est imposé des carcans terribles de normalité dans nos sociétés. Brigitte Brigante évoque les sociétés africaines chez lesquelles le vieux, l'ancêtre, est pas tout puissant, mais tout important, parce que, tout simplement, il a accumulé des années et nous le rejetons. L'enfant est important dans ces sociétés que nous qualifions de primaires ou de primitives ou même premières. Démagogie euphémistique. L'enfant, nous l'avons sacralisé, nous en avons fait un objet, un consommateur, mais quand l'enfant dérange, quand l'enfant est fou, quand l'enfant rêve, quand l'enfant perturbe, non, tiens-toi tranquille, ne te rends pas intéressant, ne te rends pas intéressant. Or, naturellement, à cause de sa maladie, dyscodromplacidolier, eh bien, Brigitte Brigante est rendue intéressante. La maladie l'a rendue intéressante. C'est ce qu'elle a fait, en tout cas, de sa maladie, de l'intérêt, se rendre intéressante malgré soi, se distinguer. Je suis marquée, dit-elle. Et voilà sa vie, et voilà sa vision, et voilà ce qu'elle nous a dit.
Les regards qui me dérangent le plus, ce sont les regards en coin, les regards obliques. Pour moi, ça sont des regards de femmes. Les hommes pratiquent moins, je pense, ce type de regard. Quand on rencontre un regard oblique, là, je peux être capable de réactions assez violentes. Je demande à la personne qui me regarde si elle souhaite que je me positionne différemment pour qu'elle puisse mieux me détailler. C'est plutôt comme ça ma façon de réagir. Et alors, la réaction est toujours pratiquement toujours la même. Mais non, quoi, qu'est-ce que vous croyez que vous avez d'intéressant pour qu'on vous regarde, vous regardez pas. C'est, ça m'arrive souvent, ça, par exemple, dans le bus. Ça me dérange beaucoup. Ça m'arrivait très souvent, même de rater une gare, de pas descendre à un arrêt de gare ou de bus, parce que j'avais peur de me lever, de qu'on me regarde. Surtout quand il y avait un garçon que je voyais qui me regardait, qui avait l'air de prendre intérêt à moi. J'étais paralysée, tétanisée, et je voulais pas me lever, donc je bougeais pas. Ça m'est arrivé souvent. Ça m'arrivait souvent aussi en voiture. Des fois, là aussi, c'est pareil, vous voyez, avec le haut de la personne, me faire un peu courser par des garçons en voiture, et là, je faisais plus descendre de voiture, je faisais des kilomètres, je pouvais pas descendre de voiture. La honte. Je crois que la honte, ça, c'est quelque chose qui perturbe beaucoup. C'est passé maintenant, ce genre de choses. Ça n'arrivera plus, je pense, de pas oser me lever. Mais je me suis interdit beaucoup. Je me suis quand même rajouté des interdits. Je savais que le jeu était faussé d'avance, que les cartes étaient pas les bonnes, qu'on pouvait pas... Un sentiment d'impuissance et de défaite surtout.
Et si c'était d'être normal, qu'il soit monstrueux et que nous soyons tous des monstres? Et si c'était d'être normal, qu'il soit monstrueux?
Entre 13 et 15, 16 ans, plutôt un âge des fois où on est un petit peu gêné, non, j'étais pleine d'assurance, mais après, il y a une longue période où le regard des hommes me dérangeait parce que j'avais l'impression de les tromper sur la marchandise.
En fait, je reprends cette expression parce qu'elle m'a été dite par mon propre mari un jour où on était en train de se chicorer. J'étais trompée sur la marchandise en parlant de mon physique. Par exemple, il me manquait un doigt.
Le petit doigt de ta main gauche.
Et bon, il s'en était pas aperçu et il me dit, mais t'aurais pu me le dire. Effectivement, je l'ai pas déballé, j'ai pas fait la liste de mes imperfections.
Tu aurais pu lui répondre que c'était sous ses yeux.
Oui, oui, que c'était un manque d'attention de sa part, peut-être aussi.
Tu t'es mariée à quel âge?
Moi, j'avais 30 ans. Nous sommes séparés quand on avait 40. Et c'est quelqu'un, je sais qu'il m'aimait beaucoup, mais je le perturbais aussi beaucoup. Je l'ai beaucoup dérangé. C'est-à-dire, ben là, je suis vêtue, on voit moins mes difformités que quand je suis sans vêtements. Et c'est vrai que ça provoque même des médecins. Ça m'est arrivé d'être en consultation, d'avoir me déshabiller, puis sur la table d'auscultation, un étonnement, mais alors un étonnement naïf, mais pas du tout méchant, mais oh, mais on n'aurait pas dit comme ça que c'était à ce point-là ou des et ça m'a beaucoup perturbée. Donc j'avais cette impression de tromper sur la marchandise. Je l'ai traînée assez longtemps. J'avais l'impression de tricher. J'avais peur du regard des autres, même quand je peur de parler. J'ai été longtemps mutique, peur de par un mot, par un regard, que quelqu'un me voit tel que j'étais et que c'était peut-être pas quelque chose de beau à regarder. Encore un regard qui m'a fait extrêmement mal, c'était un regard médical. J'avais été considérée comme ces papillons bizarres, là, où quand on épingle sur des tableaux, c'était à Saint-Louis qui est spécialisé en dermato. Et sans être avertie, je me suis retrouvée à poil dans un amphithéâtre. On m'avait pas prévenue. J'étais sur scène avec le médecin. Je voyais des étudiants en médecine, certains au fond de la salle, ils étaient en train d'ajuster leurs jumelles, leurs binocles pour me regarder. Et moi, j'étais en petite culotte, le médecin me tournait, montrait certaines zones avec sa baguette. J'existais pas, il n'y avait pas bonjour, ni au revoir, ni aucune question. Il commentait simplement l'état de ma peau. Et ce qui m'a le plus choqué, c'est qu'il n'y a pas eu une personne qui a dit bah c'est peut-être pas correct, non. Et alors j'ai allé me rhabiller dans ma cabine et là j'ai fondu en larmes. Imaginez toute un amphithéâtre qui accepte ce genre de choses. Ça affiche un sacré coup, ça démolit ça. Je crois que, en fin de compte, c'était mon choix d'accepter ce marquage. Je crois que dès la naissance, on accepte d'être ce qu'on est. Parce que j'ai même été, par la suite, quand j'avais une vingtaine d'années, la faculté de médecine, les grands ponts d'hôpitaux parisiens, m'avaient condamné à mort, m'avaient donné 3 mois de survie, sans me demander mon avis. Et je crois qu'on peut, moi, j'ai choisi la vie, j'ai choisi de vivre avec ce marquage. J'ai eu des occasions aussi de sortir de la vie, parce que j'avais des cancers qui avaient été les plus méchants de l'époque, qui sont sûrement liés à cette maladie, parce qu'elle a des effets secondaires. Mais je les ai pas acceptés, et pour le moment, je les ai toujours refusés. C'est moi qui décide, ce sont pas les médecins qui décident, elle va vivre, elle va pas vivre. Il y a beaucoup de choses que j'ai envie de faire, que je veux faire, que je ferai.
Comment c'était le premier matin?
Ça n'a pas été un réveil amoureux, ça n'a pas été dans les bras de... Non. Non, j'ai eu des soirs de rencontres, hein, en revanche, mais pas de matin. Pour moi, le matin, c'est un bonheur solitaire, à vrai dire, le matin, le bonheur du matin.
Le matin, lui dire non, ne pas tirer les rideaux. la fête, toute la lumière. Il pose un pied à terre.
Les matins, ne pas tirer les rideaux,
ne pas poser les pieds par terre. Le matin, comme un peu d'eau qu'on passerait dans un pot, adresser une prière. Pas compris.
Petite lueur du matin
qui tremble dans les mains. Qu'on a fait, qu'on doit refaire.
Et toute la fragilité, là, des petits matins.
Oui, c'est la fragilité des petits matins, le décalage aussi qu'il y a. Chacun dans son monde, l'homme, la femme, difficile de... un peu difficile de communiquer, attendre que l'autre peut-être soit parti pour pouvoir soi-même se partir aussi sur son chemin. Chacun, les vies se séparent aussi le matin, chacun va à des tâches différentes. Et on attend ce moment-là, même si on n'ose pas trop le montrer, on attend que l'autre soit parti.
Les petits matins, c'est la séparation, c'est pas les retrouvailles.
Oui, c'est pour moi, c'est la séparation. Le soir, beaucoup plus pour moi la retrouvaille, mais le matin, non. Le matin, c'est pour moi, c'est quelque chose de très assez égoïste en fin de compte. Je me vois mettre en branle l'univers, enfin faire démarrer la journée, mais toute seule. J'aime bien le faire toute seule. Autant il y a des dans la journée plus tard que j'aime partager, mais je me réserve le plaisir égoïste de voir toute seule le val soleil se lever, attendre la levée du jour. J'ai attendu toujours, souvent l'enfant le voir le matin. Oui, pour moi, c'est cet océan qui sépare deux mondes. L'homme, la femme, je les trouve très, très éloignés, mais en même temps proches, qui s'accrochent l'un à l'autre malgré tout. En fin de compte, mes vies, mes relations amoureuses, je crois que je les ai vécues par procuration, je les ai vécues dans les livres. Elles étaient toujours beaucoup plus belles dans les livres que dans ma vie. Moi, j'ai pas pu les réaliser.
Merci Brigitte. Brigitte Brigante, elle s'appelle. Merci aussi à la petite Scheherazade, la petite fille que vous avez entendue, et à sa maman Isabelle. C'était un reportage de Claire Auter. La technique aujourd'hui, Clotilde Thomas et Christophe Goudin, assistante Joël Levert. Le numéro du répondeur de la basse, j'y suis, c'est le 01 56 40 37 37, et c'est Christophe Imbert qui s'en occupe. Choix musicaux, montage, Coy Nguyen, et c'est Antoine Chao qui a réalisé cette émission modeste et géniale. Je vous rappelle le numéro du mail de la basse J'y suis, c'est daniel.mermet@radiofrance.com, et il me reste quelques secondes pour vous dire que donc vendredi prochain, nous prenons la route de Bagdad, mais Bagdad en Floride, Bagdad, Florida. On passera par New York, puis donc Bagdad, ce bourgade, ce patelin paumé dans le sud des États-Unis. Puis on ira à Orlando, plus au sud en Floride, et on reviendra ensuite à New York, un carnet de route dans une Amérique pendant la guerre, histoire d'échapper à ces imbéciles qui voulaient faire croire que nous étions anti-américains, et ceux aussi qui veulent faire croire que nous sommes anti-israéliens. Eh bien, je leur conseille de lire un livre qui sort ces jours-ci chez Fayard, qui s'appelle « Rompre les rangs », et qui est un livre en hommage aux refusniks. Vous savez, ces soldats qui ont refusé d'obéir dans l'armée israélienne et qui sont des Israéliens, pro-israéliens et même sionistes. C'est un livre passionnant que conseille chaleureusement. Voici cependant le moment de la réclame.